au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mardi 10 février à l'émission aujourd'hui avec Jacques Plante, il sera question du pont Gordie Howe qui ne fait pas l'affaire de Donald Trump. On va parler aussi avec Jean-François Blain, il est consultant en matière d'énergie. Il sera question du projet AXE, Vallée du Saint-Laurent d'Hydro-Québec. Véronique Dinel avec nous, elle est directrice d'une coopérative de soins à domicile. Il sera question d'une agence privée là, qui va prendre en charge plusieurs Lanaudois. Julie Bissonnette avec nous également, technicienne en pharmacie au centre hospitalier de Lanaudière. On va parler de la pénurie de personnel. Mais tout d'abord, un virage à 180 degrés dans le dossier de l'abolition du programme Expérience Québec, le fameux PEC. Et si elle est élue chef de la CAQ, Christine Fréchette s'engage à relancer le programme pour une période de 2 ans. Pierre Jubinville en parle avec notre analyste politique Mathieu Bélanger.
Christine Fréchette est prête à réanimer le programme Expérience Québec. On peut dire, Mathieu Bélanger, qu'elle prend tout le monde par surprise.
Surtout qu'elle a été sollicitée hier, si je ne m'abuse, par Bernard Drainville, son adversaire dans la course à la chefferie de la Coalition Vert Québec, justement pour qu'elle prenne position à ce sujet-là, notamment après que Jean-François Roberge, le ministre responsable, lui a donné son appui. Donc, on s'entendait pas nécessairement à un revirement de situation. Après tout, elle était au gouvernement lorsque la décision a été prise d'abolir le PEC, le programme d'expérience québécoise, Bernard Drainville aussi par ailleurs, mais on sentait beaucoup de grogne depuis quelques semaines maintenant à ce sujet-là, provenant de l'ensemble des groupes concernés, tant du côté patronal que syndical, communautaire, les partis d'opposition et les médias également n'y allaient pas de main morte dans ce sujet-là. Donc, dans ce contexte-là, on peut comprendre que ça a mis énormément de pression et ça a donné aussi l'opportunité aux deux candidats là, à la chefferie de la CAQ de prendre leur distance par rapport au gouvernement, même si dans ce dossier-là aussi, comme dans le troisième lien, François Legault, d'après ses déclarations d'aujourd'hui, souhaitait qu'on continue à aller dans le même sens, mais semble-t-il qu'il a beaucoup moins d'ascendant sur son parti maintenant que jusqu'à récemment. Ça se comprend dans le contexte où il a annoncé sa démission. Et donc, une surprise, mais pas complètement étonnante non plus, considérant le contexte politique dans lequel on est. Généralement, un parti politique, quand on voit qu'il y a trop de grogne, va chercher une solution. Puis comme le disait Jean Chrétien, l'ancien premier ministre du Canada, ben quand on s'est peinturé dans un coin, on marche sur la peinture. C'est ce que semble vouloir faire maintenant la CAQ, ou du moins les deux personnes candidates à la chefferie.
À l'Assemblée nationale, Mathieu, le ministre Jean-François Roberge a été bombardé de questions par l'opposition. Il est resté, lui, évasif. Faut dire qu'il a donné son appui à Mme Fréchette.
Ben, c'est évident que dans ce contexte-là, il y a une dissonance entre ce que le gouvernement dit, le gouvernement, donc, qui est encore dirigé par François Legault, que ce soit par rapport à ce sujet-là ou d'autres sujet. Est-ce que les deux personnes qui vont succéder à François Legault disent, parfois Mme Fréchette, parfois M. Drainville, parfois les deux, et Jean-François Roberge appuie Mme Fréchette, mais est encore ministre sous François Legault, et donc on sent cette solidarité ministérielle-là qui, en principe, anime nos gouvernements, peu importe la couleur politique, tant au provincial qu'au fédéral, mais là, cette solidarité ministérielle-là s'effrite. On a vu le même phénomène par rapport au troisième lien, comme je le mentionnais, où les candidatures annoncent d'autres positions, sont critiques envers le gouvernement de la CAQ. Et encore une fois, ben la CAQ étant très peu populaire dans les sondages, on se dit, ben, on peut pas juste promettre de faire la même chose. Ça ferait pas de sens. On voit bien que c'est rejeté par la population. Donc, ça met les ministres dans une drôle de position. Ça donne beaucoup de jus aux partis d'opposition qui se servent de ces déclarations-là de Mme Fréchette, de M. Drainville, pour attaquer le gouvernement actuellement en place, particulièrement à la période des questions. Et ça devient très difficile pour les ministres de se défendre, étant attaqués eux-mêmes par éventuellement la personne qui risque de diriger la CAQ et le gouvernement par ailleurs. Donc tout ça, ça fait un contexte très particulier. Ça fragilise énormément le gouvernement de François Legault, qui était déjà très fragile avant ça, mais là, ça l'est encore plus.
Vous pensez que c'est un geste bien réfléchi de la part de Mme Fréchette?
elle voit qu'elle doit prendre des positions sur certains sujets. On l'a critiqué depuis qu'elle a annoncé sa candidature à la tête de la CAQ sur le fait qu'elle était quelqu'un qui consultait beaucoup, mais prenait peu de décisions. C'est une critique revenue de certaines personnes, dont de Bernard Drainville. Ben, en prenant des positions, elle tente maintenant de montrer qu'elle est justement capable de le faire, notamment troisième lien qu'on attend encore, sa prise de position justement. Et donc, c'est stratégique en ce sens-là de se distancer du gouvernement de François Legault, de montrer qu'on peut faire un renouveau, de montrer qu'on écoute la population et à quel point c'est une grande réflexion ou pas, ben, seule elle le sait. Il faut quand même garder en tête qu'elle, comme M. Drainville, ayant été au gouvernement, ont participé à toutes les discussions qui ont lieu entourant la fermeture du PEC. Donc, sont pas néophytes complètement dans le sujet. Ils ont réfléchi à tout ça effectivement. Et donc, par ces annonces-là, encore une fois, elle montre sa volonté de se distancer du gouvernement de François Legault. Et ça, c'est stratégique, c'est calculé. C'est en toute vraisemblance. Et donc, sur la façon de faire maintenant, de dire on va réanimer le PEC pendant 2 ans plutôt que d'autres façons de faire, comme Bernard Drainville qui propose plutôt de maintenir la décision de la fermeture du PEC, mais avec une clause de droit acquis. À quel point que ça, cette prise de position-là précise sur les solutions concrètes ont été réfléchies ou pas, ça reste à voir. Mais sur le souhait, la volonté d'écouter une partie de la population et de se démarquer du gouvernement de François Legault, ça, clairement, ça relève d'une stratégie qui a été réfléchie.
Bon, c'était notre analyste politique, Mathieu Bélanger, Christine Fréchette, qui a vraiment pris tout le monde par surprise à Québec, aujourd'hui particulièrement, les gens de la CAQ. Dans un instant, Julie Bissonnette, technicienne en pharmacie.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Nissan. Chez nous, ce n'est pas juste des véhicules que vous trouvez. C'est une équipe qui vous accompagne à chaque étape avec des conseils clairs et un service qui fait la différence. Que ce soit pour l'entretien, vos questions ou vos besoins particuliers, Joliette-Nissan est là pour vous. Pendant l'événement, maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Venez nous rencontrer au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette pour profiter de nos services rapides et de nos conseils d'experts. Joliette-Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
L'échappée sur le pouce, c'est ta solution de prêt-à-manger. Savoureux et abordable, on t'offre le meilleur des deux mondes. Un repas à ton goût et une économie de temps. Repas fraîcheur, prêt à chauffer ou à congeler, l'échappée sur le pouce cuisine pour toi avec des ingrédients locaux et frais. Tous les détails à l'échappeesurlepouce.com.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 principal à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Vous cherchez un entrepreneur pour tous vos besoins en climatisation, réfrigération, chauffage ou ventilation? Ne cherchez plus! Turcotte Réfrigération de Saint-Cuthbert, c'est plus de 30 ans d'expertise à votre service partout dans la Naudière et les environs. Résidentiel ou commercial, l'équipe expérimentée de Turcotte Réfrigération s'adapte à tous vos besoins, sans oublier un service courtois et toujours personnalisé. Faites confiance à une entreprise familiale vous offrant les meilleures marques, telles que Gree, Mover et plusieurs autres. Turcotte Réfrigération, 450-836-7009.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps, comme on plie une courte pointe, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
Lanaudière PM. Santé.
Hier, on vous parlait du manque de techniciens en pharmacie, en succursale, dans la plupart des grandes bannières, et le phénomène se vit également en établissement. François Morin en a discuté avec Julie Bissonnette, qui est technicienne en pharmacie au centre hospitalier de Lanaudière.
Alors, Julie Bissonnette, vous êtes technicienne en pharmacie dans un des établissements du 6 de Lanaudière. Pour les gens qui nous écoutent, ça serait peut-être intéressant là, de démystifier, en fait, ou de séparer les deux fonctions. On ne sait pas comme si on travaillait en succursale, là.
Non, pas du tout. Technicien en pharmacie, en établissement de santé, c'est un métier qui est très diversifié, c'est un métier qui est vivant, qui évolue rapidement. Donc, chaque journée, on relève de nouveaux défis. Moi, mon rôle, il est plus au niveau de la coordination des activités pour assurer un circuit du médicament sécuritaire. Donc, j'ai un rôle un peu plus technique administratif au niveau de la gestion de l'approvisionnement pour éviter les pénuries d'inventaire. J'ai un rôle aussi au niveau plus technique, clinique pour supporter les pharmaciens à la prévalidation des ordonnances pour assurer un dossier patient complet avec une collecte d'informations la plus optimale pour assurer des soins de traitement optimaux pour nos patients.
Et ce qu'on comprend de la communication qui nous a été envoyée, c'est que il manque de bras, comme on dit en bon québécois.
Oui, tout à fait. C'est un métier qui est un peu méconnu. Je pense que malheureusement, la majorité des gens, ils nous voient plus en bon français comme notre rôle avec qui se situe à compter des pilules, ce qui est totalement faux. On a un rôle qui est beaucoup plus important que ça. Mais le que ce soit méconnu, je pense qu'on a des gens qui sont pas attirés vers ce métier-là. Donc, on a besoin de bras. On essaye de faire la promotion du métier pour que ce soit mieux compris. Et oui, il y a de la place pour la relève. Il y a la technique, il y a le DEP qui est donné. Le DEP qui est une belle plateforme pour être dans le métier rapidement. On parle d'à peu près 20 mois pour pouvoir venir pratiquer. Puis l'établissement de santé est aussi un milieu qui offre des conditions de travail optimales. Donc, on sollicite les gens pour optimiser l'intérêt de se diriger vers la pharmacie.
Parce que faut quand même pas se le cacher, là, on parle souvent de conditions de travail qui sont pas faciles dans le secteur de la santé. Le vôtre semble quand même, je dirais ça comme ça, là, et entre gros guillemets, là, privilégié.
Ben, on est privilégié dans le sens qu'on fait pas partie des corps de métier qui a un corps de nuit. Oui, on fait des fins de semaine, mais avec le nombre, tu sais, on est une équipe d'environ 60 ici au centre hospitalier de Lanaudière. Donc, nos fins de semaine, ils sont à roulement à 1/4. Oui, ben on a des ATP qui ont des postes de soir et que c'est toujours les mêmes qui les assurent. Fait qu'il y a une belle opportunité de travailler de jour. Il y a plusieurs quarts de jour qui sont disponibles aussi. Donc, c'est des conditions de travail intéressantes. Plus aussi l'opportunité d'être syndiqué en rentrant, puis 4 semaines de vacances. Donc, c'est des belles conditions de travail, effectivement.
Peut-être pour les gens qui seraient peut-être intéressés, qui auraient la piqûre, c'est le cas de le dire, pour le métier, là, j'imagine que vous êtes en mesure de nous dire quelle formation on peut aller chercher.
Oui, ben en fait, pour être technicien en pharmacie, on parle d'une formation collégiale de 3 ans. Il y a 10 cégeps, à mon souvenir, qui donnent la technique au Québec. Ici, dans Lanaudière, ce qui est très intéressant pour le DEP, comme que je vous ai déjà mentionné précédemment, on parle d'une formation d'environ 20 mois. On a la chance d'avoir le centre de formation des Samores qui est directement ici dans le stationnement ou presque du centre hospitalier, qui donne une belle visibilité aussi parce que les stages vont être dirigés vers notre établissement de santé ou à Pierre-Legardeur et dans nos milieux communautaires de proximité, fait que les taux de placement sont extrêmement intéressants. On connaît nos stagiaires, puis on travaille très fort pour les conserver s'ils ont de l'intérêt à rester parmi nous.
Voilà, c'était Julie Bissonnette, technicienne en pharmacie à l'hôpital de Joliette.
Lanaudière PM,
communautaire.
À partir du 1er mars, il y a une agence privée qui va prendre en charge des centaines de Lanaudoises et Lanaudois là, qui bénéficiaient de soins à domicile prodigués par la coopérative en soins à domicile de la MRC de l'Assomption et la coopérative d'aide à domicile d'Imavie qui dessert, elle, la MRC des Moulins et Joliette. Véronique Dinel est la directrice générale du côté de l'Assomption. François Morin lui a parlé.
Écoutez, plus que déçus, on est aberrés par cette situation-là. Donc, on parle de l'ensemble des usagers du sud de la Naudière, donc la MRC, les Moulins et la MRC l'Assomption qui vont perdre leur service avec nos coopératives. Nos coopératives qui les desservaient depuis plus de 15 ans. Donc, effectivement, c'est dans le cadre de la perte du dernier appel d'offres aux mains des agences privées de Montréal qu'il va y avoir ces coupures de services-là pour nos usagers.
Dans l'appel d'offres, est-ce qu'on parlait de qualité de service ou c'est simplement, là, on parlait de coût?
En fait, ces appels d'offres-là sont montés avec certains critères de qualité que nous, on juge pas assez misé sur la qualité des services, sur l'ancrage régional, sur l'expérience du soumissionnaire également. Comment ça fonctionne, c'est qu'à l'ouverture des enveloppes, c'est au plus bas soumissionnaire. Donc, effectivement, on réunit quelques critères de qualité qui sont extrêmement simples à répondre et par la suite, on y va au plus bas soumissionnaire.
Dans votre coin de pays, il y a combien de personnes qui seront impactées par cette décision-là? Là, je parle simplement là, des gens qui reçoivent les services.
Alors, on parle d'environ 410 usagers. Ce sont des usagers qui sont déjà dans un état précaire, là, donc des gens qui sont vulnérables, des gens qui sont malades, des gens qui ont des troubles cognitifs. Des gens pour qui ça va complètement changer leur vie, là, cette décision-là du 6. On parle de possiblement là, de détresse psychologique, de refus de soins, d'hospitalisation. Donc, ce sont des gens qu'on dessert depuis des années et nous, dans nos coopératives, ce qu'on prône, c'est la qualité des services. Donc, ce qu'on offre, ce sont des soins qui sont stables avec les mêmes préposés depuis des années. Ce qui crée le lien de confiance qui est essentiel pour la qualité des services qu'on offre. Donc, on vient briser ces liens-là humains. Ces gens-là, écoutez, on a déjà des appels de clients qui sont complètement en détresse avec la nouvelle qu'on vient juste d'apprendre la semaine passée.
Bon, justement, je voulais en arriver là. Quand on parle des préposés, on parle de salariés, donc c'est des gens qui vont perdre leur emploi.
C'est exactement ça. Donc, on parle de 150 employés pour le sud de la Naudière qui vont perdre leur emploi. Et ce qui est plus aberrant là-dedans, c'est que ces employés-là ont été formés dans un programme du gouvernement du Québec qui s'appelle la FAPAC. Et ce programme-là est reconnu seulement dans nos entreprises, dans les ESSAD, ce qui fait en sorte que les employés vont perdre leur emploi et ne pourront pas se repositionner dans le système, dans le réseau de la santé publique. Donc, c'est doublement aberrant pour eux. Il y a un énorme vent de panique présentement dans nos entreprises avec ces employés-là qui comptaient sur nous pour qui leur emploi a une très grande importance dans leur vie de par l'emploi qu'ils font auprès des gens qui les aident, mais également le fait que nous, on leur a vendu cette formation-là en disant qu'ils pouvaient donner des soins, mais c'est seulement exclusif à nos entreprises. Donc, ce qui va faire en sorte qu'ils vont devoir se retourner vers les entreprises privées qui ont gagné les appels d'offres dans la Naudière. Et ces entreprises privées-là ont soumissionné plus bas que nous. Ont soumissionné à perte pour remporter les contrats. Ce qui veut dire qu'ils vont payer leurs employés, on ne sait pas combien, mais clairement pas, ce ne sera pas les mêmes conditions que nous, on offre.
J'imagine qu'on a posé des questions aux gens du 6. Est-ce que vous avez eu des réponses?
Pas encore. Écoutez, depuis mardi passé, moi, je suis sur ce dossier-là. J'essaie d'avoir des réponses. J'essaie de comprendre comment ils peuvent considérer même le fait que de transférer l'ensemble de cette clientèle-là à l'agence privée et de manière opérationnellement là, possible, là, parce qu'à la base, ils nous avaient donné 30 jours pour le faire, chose qui est complètement impossible, même si on le voulait. Donc, depuis nos récentes revendications, je crois qu'ils sont retournés sur la table de travail. Cependant, je n'ai toujours pas de retour du CIS de Lanaudière, de l'approvisionnement plus précisément, sur leurs intentions, puis si je vais réussir là enfin à leur faire entendre raison.
Ça va devenir effectif quand, là, le nouveau contrat?
En fait, nous, on parle de contrat à partir du 1er mars. Donc, à partir du 1er mars, là, dans 3 semaines, c'est le nouveau prestataire de services, donc l'agence privée, qui va obtenir toutes les nouvelles demandes provenant du CIS. Donc ça c'est un fait là, mais ce qui nous dérange le plus, c'est la demande du CIS de transférer l'ensemble de notre clientèle à ce prestataire là qui est même pas connu, qui vient de Montréal. On sait pas s'il y a les employés, on sait pas si nos clients vont tomber entre deux chaises. Donc c'est vraiment cet aspect là qui nous dérange le plus là, je vous dirais. Nous, on demande une attrition naturelle. Donc, les gens, ce sont des gens qui s'en vont doucement vers des soins palliatifs. Est-ce qu'on peut les conserver, tu sais, s'il reste quelques mois à vivre à cette personne-là? Pourquoi devoir la changer de prestataire puis la déstabiliser?
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine pour Charles de Gaulle, c'est dense depuis le boulevard du Tricentenaire et ça jusqu'à Henri Bourassa. Pour la suite, ça va très bien là, pour franchir Charles de Gaulle. Traversée facile donc vers la rive nord, Repentigny, 40 Est, on roule sans problème. C'est lourd pour la 341 entre la 40 et la rivière l'Assomption. Pont-le-Gardeur, oui, ça va bien par Sherbrooke, également par Notre-Dame, 25 Nord. Dense depuis la jonction avec la 440 jusqu'au boulevard des Mille-Îles, du côté de Terrebonne, Mascouche, oui, ça va bien. Pont Sophie Masson, facile en ce moment, et finalement autoroute 640 entre la 25 et la 40. En direction ouest, un peu nombreux à partir de la montée des Pionniers. La direction ouest, c'est lourd depuis la sortie de la 40 là, pour embarquer sur la 640, et ça le demeure là, sur environ 2 km. Dans un instant, l'actualité.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Maîtriser toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant de la toute nouvelle Nissan Leaf S Plus 2026 en location 48 mois à partir de seulement 460 $ plus taxes par mois, sans aucun compte initial. Avec sa grande autonomie et son allure à la fois chic et sportive, elle saura vous charmer. N'attendez plus. Passez en concession dès maintenant au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette pour faire un essai routier. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Chaque hiver, des familles réalisent que leurs parents n'est plus en sécurité à la maison. Au Manoir La Tourelle, nous offrons des studios chaleureux avec repas et entretien ménager inclus. Visitez manoirlatourelle.com pour un milieu de vie chaleureux et sécuritaire.
Ici Catherine Barry et Tania Devillers, vos pharmaciennes propriétaires de la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel-de-Brandon.
Avant de partir en voyage, pensez à préparer une trousse santé à apporter avec vous. Nous allons la personnaliser afin qu'elle convienne à vos besoins et aux risques de votre destination. Lorsqu'on voyage, il est également recommandé de s'informer sur les différentes maladies possibles. Nous pouvons vous prescrire un antibiotique pour la diarrhée du voyageur et un traitement préventif pour la malaria ou le mal aigu des montagnes. Et n'oubliez pas de mettre à jour votre carnet de vaccination. Nous pouvons vous prescrire et vous administrer les vaccins nécessaires.
Pour être bien conseillé, appelez-nous au 450-835-5071 ou venez nous voir en pharmacie au 185 rue Saint-Gabriel à Saint-Gabriel-de-Brandon.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou, j'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio, domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, joliette.com.
Cette semaine, dans la circulaire Super C, les ailes de poulet Flamingo format sélectionné sont à 6,95 puis les framboises 170 grammes sont à 2,44. Hey, c'est super, Super C! Valide jusqu'au 11 février en magasin et en ligne. Détails au superc.ca.
L'actualité de ce mardi 10 février en manchette. Christine Fréchette prend tout le monde de court dans le dossier du PEC. Le patron d'Alto promet de ne pas ravager le paysage avec le futur TGV. Et le Canada remporte l'argent à l'épreuve de relais mixte. Et tout d'abord, Pierre Jubainville, Christine Fréchette, là, qui prend tout le monde par surprise à Québec.
C'est le cas de le dire. Elle a affirmé qu'elle est disposée à rétablir le fameux programme Expérience Québec pour une période de 2 ans. François Legault, lui, disait 1 heure plus tôt qu'il n'avait pas l'intention d'intervenir dans le débat sur l'immigration.
Selon François Legault, offrir une clause de droits acquis aux travailleurs étrangers temporaires serait irréaliste.
Techniquement, il pourrait y avoir 350 000 travailleurs temporaires qui déposent une demande dans le PEC s'il y avait une clause grand-père.
Ça remettrait en question l'avenir du français à Montréal.
Il y a trop d'immigrants temporaires à Montréal et à Laval. Il faut réduire le nombre.
Mais malgré le débat, il n'a pas l'intention de trancher.
Je vais laisser les deux candidats s'exprimer.
Aujourd'hui, Christine Fréchette s'est engagée à réactiver le PEC pour ceux qui étaient déjà au Québec au moment de son abolition. Quant à Bernard Drainville, il veut faire des exceptions pour ceux qui occupent des emplois prioritaires.
Elles vont avoir préséance.
Pour combien? 1000? 10 000? 100 000 personnes? Pour combien de personnes?
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
Maintenant, scène judiciaire accusée du meurtre de sa grand-mère, un jeune de 14 ans renonce à reprendre sa liberté.
Oui, il est accusé du meurtre au deuxième degré de sa grand-mère, commis à Sainte-Julienne en novembre. Et par le biais de son avocate, il a justement indiqué qu'il renonçait à tenter de reprendre sa liberté dans l'intervalle. Il continuera à séjourner à l'Institut Philippe Pinel, où on a déjà évalué que sa condition ne le dégageait pas de sa responsabilité relativement aux gestes qu'il a posés.
Le PDG d'Alto promet de ne pas exproprier sauvagement pour le passage du futur TGV.
Oui, Alto, qui pilote le projet de train à grande vitesse entre Québec et Montréal, promet de ne pas agir en sauvage en matière d'expropriation. Mais Martin Imbeault explique qu'un corridor d'une largeur de 10 km est à l'étude, mais on ne gardera que 60 mètres dans le tracé final. Il veut bien faire les choses et promet des discussions humaines avec les propriétaires touchés.
Quand le tracé va être déterminé à l'automne prochain, là, on va entreprendre des discussions personnelles et très humaines avec chacun des propriétaires pour tenter d'acquérir les propriétés de gré à gré avec une compensation qui est juste et raisonnable, puis aussi un calendrier qui a du bon sens pour ne pas répéter les erreurs du passé.
Inquiétude du côté de Cuba, la situation s'améliore pas, Pierre.
Oui, on parle d'une crise humanitaire à caractère alimentaire et sanitaire, selon le directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire, François Audet, croit que la jeunesse qui travaille dans l'hôtellerie va réagir alors que les vols vers l'île sont tous suspendus en raison d'un manque de kérosène.
Cette jeunesse-là va perdre leur travail, vont perdre l'accès aux devises. Et de ce que je vois sur les réseaux, ça serait pas surprenant qu'il y ait une mobilisation. Peut-être avec une répression, ça serait pas à espérer. Mais c'est sûr que Cuba va, non seulement va traverser une crise humanitaire, mais ça va soulever, à mon avis, des mouvements de contre-pouvoir.
Et finalement, une bonne nouvelle aux Jeux de Milan, médaille de bronze, je crois, pour les Canadiens.
D'argent.
D'argent,
c'est encore mieux.
Oui.
Si on parle de début prometteur pour l'équipe canadienne de patinage de vitesse courte piste, et Philippe Bonneville va nous parler de la performance de l'équipe canadienne.
L'équipe canadienne de courte piste n'a pas perdu de temps dès la première occasion. Elle est montée sur la deuxième marche du podium, au grand plaisir des nombreux Québécois dans les estrades ici à Milan.
Le relais mix a donné des frissons à tous les Canadiens qui étaient présents aujourd'hui dans l'aréna.
Et cette finale a été enlevante du début à la fin, les Canadiens ayant eu à effectuer une remontée puisqu'ils étaient derniers à un certain moment dans la course. Ambiance survoltée dans l'amphithéâtre puisque l'équipe italienne était aussi de la finale et a d'ailleurs remporté l'or.
Stressant. Puis c'était le fun.
C'est électrique, c'est fou, on est stressé, on criait.
Certains experts prévoient que le Canada pourrait remporter jusqu'à 9 médailles en courte piste cette année aux Jeux olympiques. Philippe Bonneville, Cogeco Nouvelles, à Milan, en Italie.
La mauvaise nouvelle, c'est qu'actuellement, match Canada-États-Unis au hockey féminin, le Canada qui tire de l'arrière, c'est 5-0 pour les États-Unis.
Donald Trump va sûrement être content.
Ah oui, merci Pierre.
Bonne soirée.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel.
CFNG.
Lanaudière PM. Environnement.
Oui, il y a des craintes qui sont manifestées en regard d'une possible privatisation en tout ou en partie d'Hydro-Québec. Ça inquiète pas mal de monde, tout ça. Jean-François Blain est consultant en matière d'énergie et Michel Arnois a eu l'occasion de le rencontrer lors d'une séance d'information qui porte sur le projet Axe-Vallée du Saint-Laurent qui prévoit le passage dans la région là d'une ligne de 735 kV et l'aménagement là, d'un poste de transformation. On écoute l'entretien.
Monsieur Blain, j'aimerais ça que vous me parliez de l'ouverture au privé par Hydro-Québec particulièrement. Ça vous inquiète?
C'est l'ouverture au privé qui est favorisée par le gouvernement. On ne sait pas, évidemment, avec la participation ou la collaboration d'Hydro-Québec. Je ne peux pas vous dire à quel point le conseil d'administration d'Hydro-Québec lui-même y est favorable. Ce serait intéressant qu'il nous le dise lui-même.
Ça vous inquiète?
Bien, c'est extrêmement inquiétant à tous égards, parce que ce qui est en train de se produire, c'est qu'on encourage des communautés locales, des MRC, des communautés membres des Premières Nations, à investir conjointement avec des investisseurs privés, des promoteurs privés, pour la propriété et l'exploitation des équipements de production et même des équipements de transport d'électricité éventuellement. Alors ça, c'est un changement complet, là, un revirement radical, un virage à 180 degrés par rapport aux principes et aux règles qui prévalaient depuis la nationalisation, c'est-à-dire l'investissement collectif via nos tarifs dans la propriété et l'exploitation publique des infrastructures énergétiques, secteur électrique, et la redistribution universelle des bénéfices tirés de cette propriété, de cette exploitation collective-là. Maintenant...
Donc René Lévesque doit se tourner dans sa tombe.
C'est sûr que René Lévesque se tourne dans sa tombe, parce que ce à quoi le gouvernement de la CAQ a donné ouverture et ce à quoi ça va donner ouverture, c'est l'accaparement des ressources par les uns et les autres au gré de leurs ambitions financières respectives.
Vous craignez l'appropriation des bénéfices par les parties privées qui vont se traduire par l'augmentation des tarifs, selon vous?
Ah oui. Bien, écoutez, le risque financier des partenariats d'intérêt particulier, nommons-les comme ça, là, qui vont être propriétaires et exploitants des prochaines infrastructures, ce risque-là, là, la valeur de ces coûts-là, de production ou de transport, va devoir être récupéré dans les tarifs de la collectivité. Autrement dit, la collectivité des Québécois, via leur tarif d'électricité, vont supporter le risque financier de ces investisseurs privés-là en leur garantissant le paiement de leur énergie en vertu de contrats à long terme. Le risque financier pour l'investisseur est nul d'ailleurs.
Mais ils vont investir un peu de sous quand même.
Oui, mais s'ils investissent...
Ils ont des contrats de vente, oui.
Si un promoteur d'un projet de parc éolien au Québec allait voir son banquier et lui disait « Ah, je vais vendre mon électricité dans le marché américain à New York », le banquier le regarderait et lui dirait « Êtes-vous sérieux, monsieur? Vous allez produire au Québec avec des éoliennes qui vous coûtent le même prix qu'un compétiteur situé à 50 ou 75 kilomètres de New York, de l'électricité que vous allez transporter sur près de 1000 kilomètres, payer des frais de transport, des pertes de transport, des frais de transport applicables dans les réseaux voisins, jusqu'à un distributeur dans la ville de New York, et vous prétendez devant moi que vous allez faire ça à un prix compétitif avec votre concurrent qui produit avec la même filière et les mêmes équipements à 50 kilomètres de New York? Non. Vous n'aurez pas de financement parce que vous ne serez pas rentable, vous n'arriverez pas à compétitionner. Vos coûts sont trop élevés par rapport à eux. Et si vous n'avez pas la possibilité de vendre comme producteur privé directement à un usager final au Québec, vous n'avez pas de marché autrement qu'en ayant une garantie contractuelle d'achat qui a un seul acheteur qui peut vous fournir, c'est Hydro-Québec dans son obligation de fournir.
Vous reprochez au gouvernement de ne pas avoir de politique énergétique ni de plan de gestion intégré des ressources énergétiques. Est-ce que ça va venir, ça, un jour, une politique?
Le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques, son dépôt est prévu le 1er avril qui vient par la ministre ou l'ex-ministre ou son suppléant de l'économie, de l'innovation et de l'énergie. Ce qu'on reproche au gouvernement, surtout, c'est de prétendre amorcer une transition énergétique alors qu'on n'a pas de dispositif contraignant qui soit garant de résultats de réduction des produits pétroliers et gaziers dans des proportions au moins équivalentes à ce qu'on veut rajouter comme ressources disponibles du côté électrique. Si on n'a pas de réduction de plans avec des échéances, des quantités, des mécanismes de suivi de reddition de comptes, la décarbonation ne se fera pas. On va investir massivement dans le secteur électrique. Ça va juste augmenter la part des ressources financières des ménages et des entreprises consacrées à l'énergie au détriment de leur capacité de dépenser dans tout le reste. Ce n'est pas de la création de richesse, ça. À moyen et long terme, c'est plutôt une asphyxie graduelle de notre capacité à supporter la diversité et la santé des activités économiques diversifiées dans notre économie intérieure.
Pensez-vous que le plan qui va être déposé au printemps va correspondre à vos attentes?
Je m'attends du gouvernement de la CAQ qui priorise parmi les options évaluées par ses fonctionnaires celle qui est axée radicalement sur la plus grande croissance, la plus coûteuse et le scénario que je considère comme étant le plus à risque financièrement pour la collectivité.
Bon, c'est Michel Arnoy qui s'entretenait avec Jean-François Blain, un consultant en matière d'énergie là, qui rencontrait des citoyens là, de Saint-Gabriel-de-Brandon le week-end dernier concernant cette fameuse ligne, le projet Axe Vallée du Saint-Laurent d'Hydro-Québec. Dans un instant, Jacques Plante.
Le Festival Saint-Combe-en-Glace se termine en beauté les 14 et 15 février. Le samedi 14 février de 12h30, retrouve Sonic Wave en spectacle au Parc de l'Harmonie. Participe ensuite à l'atelier d'initiation à la sculpture sur glace de 13h à 16h dans la rue entre le Parc de l'Harmonie et l'église. À 14h, place au cours de danse en ligne avec Highway Country, puis spectacle de Candy House Country dès 14h30. Et en soirée de 18h à 20h, viens vivre le ski de fond au flambeau au camp Richelieu. Le dimanche 15 février, atelier de sculpture sur glace dès 13h et spectacle de Bélan à 13h au Parc de l'Harmonie. Saint-Combe t'attend. CFNJ sera sur place.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Les orthèses plantaires. Efficaces pour soulager plusieurs pathologies des pieds. Fabriquées sur mesure, elles s'adaptent à votre style de vie et vos chaussures. Prenez rendez-vous pour un examen biomécanique. 450-398-PIED, 398-7433 ou podiatrejoliette.com.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
Pour la Saint-Valentin, CFNJ vous envoie de l'amour et vous envoie aussi au resto. Jusqu'au 14 février, repérez l'indice du jour mentionné par vos animateurs. Puis inscrivez-vous à cfnj.net, section concours. Le jour de la Saint-Valentin, vous pourriez gagner l'un des 4 certificats cadeaux de 100$ chacun à l'échappée Grill et Bar Sportif de Joliette. Une inscription possible par jour jusqu'au 14 février à 13h. Concours réservé aux membres. Pour le devenir, voyez tous les détails sur cfnj.net.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Bonjour Jacques.
Salut Claude.
Donald Trump qui fait encore du chapeau, là, qui menace de bloquer le pont Gordie Howe, c'est ce fameux nouveau pont là, qui devrait relier les villes de Windsor en Ontario et de Détroit au Michigan.
C'est, on commence à être habitué là des montées de lait de Donald Trump. Si il fumait, je dirais, il en a fumé du bon. On sait qu'il fume pas puis il prend pas d'alcool.
Es-tu sûr, toi?
Non. Ben, depuis longtemps que
son cerveau est affecté déjà.
Ben, j'ai l'impression qu'il digère mal là, ses cheeseburgers ces derniers temps là, parce qu'il fait ces tweets là. son True Social, là, sur, il fait ça aux petites heures du matin ou très tard le soir.
Il fait de l'insomnie. Puis,
c'est complètement... Tu sais, quand on est habitué, là, on commence à en avoir épais sa carapace là-dessus, à toutes les fois qu'il menace les gens de tarifs, mais c'est son air de la guerre.
C'est souvent décousu parce que là, il a tenté de faire un lien avec le pont Gordie Howe et, bon, qui a aucun rapport à part qui a aucun rapport avec le hockey, à part le nom du pont du joueur de hockey, Gordie Howe. Mais il a tenté de faire un lien avec
l'entente du Canada avec la Chine.
Avec la Chine et la Coupe Stanley, en ce sens qu'il a dit que la Chine allait nous voler la Coupe Stanley puis
Pékin,
le hockey.
Pékin va prendre le contrôle de la Ligue nationale.
Ben oui.
Dans le même tweet, là. Fait qu'imagine-toi.
C'est décousu.
Il reste que c'est ça. Tu sais, je suis en train de dire, quand il met des tarifs, on dit bon, mais ça, c'est son anane. Il y aurait un petit enfant qui jouait avec son hochet. Mais quand tu regardes concernant ce fameux dossier du pont, tu dis il est sénile.
Oui.
Il n'y a pas d'autre chose.
Mais ils fonctionnent par lubie, j'ai l'impression, parce que là, il y a un mois, on parlait de Groenland, on n'en parle plus. Et moi, je te dis que le pont Gordie Howe va être éclipsé cette semaine, mon impression, par le Mexique. Parce que là, il va vouloir imposer un paquet de tarifs au Mexique, parce que le Mexique va vouloir venir en aide à Cuba.
Ouais, ça, il va aller sur autre chose, évidemment. Tu mentionnes ce fameux pont-là. On pouvait lire dans les notes qu'en 2017, dans son premier mandat, alors que c'était Justin Trudeau qui était PM, il était d'accord avec le lien de ce pont-là en disant oui, parce qu'on fait des affaires ensemble. Il était d'accord. 2017. 2025, là, écoute, quand je dis il est sénile, c'est le président des États-Unis et de ne pas savoir en disant, écoute, là, le pont, faut qu'il soit à FANAF, là, tu sais, à nous autres puis aux Canadiens, puis c'est à nous autres d'aller chercher de l'argent. Il a fallu que notre PM lui explique que c'est nous autres qui a payé la construction
du pont. C'est le Canada qui... Oui, exactement.
Fait qu'il dit que c'est nous autres qui va planter un payage là.
Et que lui, il veut avoir moitié de propriété sur le pont.
Exact.
Mais la moitié du pont sera gérée par l'État du Michigan.
Ouais, c'est ça. Exactement. Et Carney a été obligé de lui dire aussi, écoutez, dans la structure du pont comme tel, c'est de l'acier canadien et américain. Et c'est des Américains et des Canadiens qui ont travaillé sur le chantier. Il a été obligé de l'appeler pour lui expliquer ça.
Oui, conversation ce matin, donc, entre le premier ministre Carney et le président Trump. Donc, il essayait, M. Carney, d'expliquer ça à Trump. Est-ce que Trump a compris vraiment quelque chose là-dedans?
Ben, tu sais, c'est comme... moi, je le trouve, Carney, là, il est pas mal bon. Il est pas mal bon à ce niveau-là d'avoir la patience de prendre le téléphone, d'appeler ce deux pics-là pour y expliquer. Parce que, on le mentionnait, là, le coût de construction, c'est 6,4 milliards de dollars qui a été financé entièrement par le gouvernement fédéral canadien. Et une fois que le pont va être ouvert, il va être détenu par le Canada et, comme tu l'évoquais, l'État du Michigan. L'autorité du pont Windsor-Détroit, une société d'État fédéral canadienne, supervise la construction et va fixer et aussi percevoir les droits de payage. Et là, quand on parle de droits de payage, schling-schling, Trump, il dit, ben, gars, on va commencer à diviser 25 cents. Hein? Tu sais, dans le fond, il n'y a rien à faire là-dedans.
Rappelons-nous que c'est l'État du Michigan et non le gouvernement fédéral américain. Là. C'est deux choses. Là.
Et d'ailleurs, le gouverneur de l'État du Michigan disait, c'est, quand tu lis ça, c'est tout décousu. Là. Il parlait de son tweet. Là.
Et ça, c'est tout décousu.
C'est pas sérieux.
Et c'est un deuxième pont, parce qu'il y a déjà un autre pont.
Le pont ambassadeur.
Oui, le pont ambassadeur qui relie Détroit au Michigan et à Windsor. À Windsor, Ontario. Et c'est un passage important. Puisqu'il y a énormément d'affaires qui se brassent entre Windsor et Détroit. Ce sont des villes voisines jumelles, on pourrait dire même.
Oui, puis on l'a souvent évoqué, c'est que quand on bâtit un véhicule automobile, il se peut que les pièces, ça traverse 5-6 fois.
Ça promène d'un bord à l'autre du pont, oui, c'est ça.
Alors, c'est pour ça. Et on l'a vu pendant le blocus là, qui a eu lieu à Ottawa avec les routiers. Le pont avait été aussi bloqué.
Exactement.
Là, on a demandé aux policiers de le débloquer. Et souvent, on a vu des images où c'est congestionné. Il y a tellement de véhicules, ce qu'on peut dire, les 53 pieds notamment, qui passent là. C'est congestionné. Donc, de là à ce qu'on a voulu créer, Et ça fait tellement drôle dans la bouche des Québécois, un troisième lien.
Ouais.
Alors, on a voulu faire ça et on devrait là finalement accéder au pont là au tout début de 2026. Il reste encore quelques tests de sécurité à faire. Mais quand on regarde là les commentaires de plein de gens autour de ça, les gens ne reviennent pas et on se dit, c'est le président des États-Unis. Il est entouré d'une équipe. Il doit être informé. Alors, pour écrire des choses comme celle-là, c'est pas drôle.
Mais retenez bien ce que je dis, là. Dans les prochains jours, le sujet du pont sera éclipsé par une guerre avec le Mexique.
Il va sauter sur autre chose.
Par rapport à Cuba.
Ah, exactement.
Je vous le dis, ça s'en vient. Je la sens.
Il va faire attention de ne pas trop crier après son chum de l'URSS aussi. En tout cas, on est en plein jeu olympique. Hein? Ben, ouais. Lui, il gagne les 3 médailles. Il y a l'argent, le bronze et l'or pour le plus tweed sénile qu'on peut pas imaginer.
Merci, Jacques Plante. Je salue et remercie les collègues à l'émission aujourd'hui. Mathieu Bélanger, François Morin, Pierre Jubinville et Jacques Plante que vous venez d'entendre. Ici Claude Fournel. Passez une excellente soirée. Nicolas Bellemare sera là dans les prochaines minutes. Nous, on vous donne rendez-vous demain, 16h, pour une autre édition de Lanaudière PM.